Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Vous écoutez RMC, c'est les nuits de l'after avec Max Chano, avec Julien Laurence, avec Walid Acharchour. On est ensemble jusqu'à 5h du matin, bien sûr, merci d'être avec nous. Il est 20h33 ici à New York, 2h33 chez vous, on a encore du temps, bien sûr. Avant de parler de Hervé Renard, Walid, tu veux faire un avis sur le coach de la Tunisie,
ouais.
Qui avait prévenu qu'il n'était pas magicien, il avait raison. Pas magicien, c'est pas Jérôme Ajax pour les plus anciens, pour des mecs comme Julien et moi. Parce que Julien et moi, c'est la même génération.
C'est ça.
Ah ouais, c'est moi, c'est années début 80, tout ça.
Il est plus jeune que l'autre. Hein.
Alors, ok, mais alors toi, tu commences à l'ouvrir.
Mais je te dirais pas, c'est qui.
Tu fais plus vieux que nous. Tu fais plus vieux que nous, déjà. Moi, on me dit que t'as 45 ans, je dis ok, je signe.
C'est pas ce qu'on m'a dit hier, quand après qu'ils aient vu la vidéo YouTube, on m'a dit tu fais le plus jeune.
Toi, tu es plus jeune, toi.
Bien évidemment, non.
Qui t'a dit ça, vas-y.
Regarde les rides.
Qui t'a dit ça, on voudrait savoir.
Pas
tout me dire, à moi.
Je peux pas tout dire, non.
Ah non, c'est que l'équipe de New York qui a dit ça. Patrick Vieira t'a dit ça, peut-être.
Peut-être.
Ah. Pirlo.
Non plus, non, il regarde pas, Andrea.
Il regarde pas l'after foot.
Décalage horaire, non.
Andrea.
En podcast.
Sympa, ah oui, Andrea ou pas?
Sympa, mais moins sympa que toi et Walid.
Est-ce que c'est un mec, Andrea, quand tu lui parles, il s'intéresse à toi, quoi, et tu poses des questions.
Il écoute, oui.
Oui, parce que tu sais, moi, je divise. Il y a deux catégories de footballeurs ou de gens dans le monde, d'accord. Il y a ceux qui s'intéressent dans l'échange, sont curieux. C'est un échange, le principe de la vie, en fait.
Juste, est-ce que c'est
et puis il y a ceux, ils parlent d'eux. Ouais. Mais il pose une question, en fait. Voilà. Est-ce qu'Andrea, c'est ça?
On est un peu plus sur la deuxième option.
Est-ce que c'est un mec comme Nico Jamin, par exemple, qui est pas du tout sociable?
Alors, j'aime pas les gens.
Là, j'ai
envie de me barrer.
Ou est-ce que c'est un.
Parce que moi, ce qui me dit fini.
Surtout qu'il pose une question, mais qu'on a rien à tirer de la réponse.
C'est ça, ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est un défaut.
Salut, ça va, mais il te le dit uniquement parce que.
Vous savez ce qui se passe? Là, je vois juste. Il y a deux petits yeux, là, hors du studio, qui dépassent l'ordinateur. C'est Antoine Varnier, que je connais par cœur, qui souffle des crasses à Walid, qui, comme un perroquet, les répète.
Mais pas du tout. Juste à vivre au quotidien en fait avec la personne pour savoir.
Pour le coup, je me mets jamais en avant, moi, Julien. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui pose des questions, surtout,
c'est pas facile.
Je le fais.
Enfin, tu fais ça dans ta chambre tout seul, peut-être.
Non, mais c'est,
quand on n'est pas là.
C'est horrible.
Non, mais
franchement, ça, là, ça me fait mal.
T'es
un personne.
On va pas se mentir.
Vous pouvez me chambrer, mais allez-y, mais ça, non.
Ah bon?
Ça, c'est ma qualité, ça. Julien, c'est un frérot, drôle dame, tu viens d'histoire.
Ça fait longtemps qu'on se connaît.
Voilà, oui, mais.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Sois honnête.
Mais non, moi, j'ai une vision de Nico qui est différente de la vôtre, peut-être.
Mais non, mais lui, avec toi, c'est un mytho, Walid.
Non, mais est-ce que tu connais, par exemple, le nom du réceptionniste de l'hôtel?
Bien sûr, Esteban.
Esteban.
C'est pas Esteban.
Pas
le Paul. Le Paul, il est resté.
C'est un menteur, c'est Esteban. Le Paul n'est pas venu au Coupe du Monde.
Mon Dieu, vous êtes faible.
Ouais, mais bon.
Sur les références, c'est très faible sur les références.
Non, mais c'est. Quand on est très heureux malgré tout d'être assis à côté de toi.
Mais voilà, ouais, alors sur le professionnel, c'est top.
Le professionnel, c'est top. Reste bien concentré.
Pour moi, c'est l'un des meilleurs de sa génération.
Ouais.
Par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui.
Dans cette tranche horaire, t'es le meilleur.
Voilà, mais par contre.
Fini, vas-y. Mais.
Par contre, en rentrée, voilà.
2h05, t'es bien.
Voilà, il rentre vite à l'hôtel, quoi.
2h05, t'es bien.
Voilà.
Tu mets aussi Julien Laurence, en fait.
Voilà, mais je suis obligé.
J'ai fait ta carrière, je t'ai envoyé à Paramount, ESPN. Qu'est-ce qu'il y a? Baku TV.
Tout ce que tu veux, un peu.
Voilà. Bon, Jean-Louis Tour est avec nous. Toujours avec nous. Il a fait une apparition furtive tout à l'heure. Il est de retour. Jean-Louis, en direct.
En fait, je suis là pour parler de l'équipe de France, donc j'attends.
Mais oui, t'as raison.
40 minutes d'écart, il n'y a pas de problème.
T'inquiète.
Oh, Jean-Louis.
Écoute, Jean-Louis, il connaît mes
lignes. Il n'a pas son émission, c'est pour ça.
Jean-Louis sait ce qu'est une fausse ouverture. Oui. En l'occurrence, on avait un Uruguay qui
était par Jean-Louis, là, c'est la grosse case. C'est 2h05, donc tu t'adaptes. Il y a un moment, chef du foot, pas chef du foot. T'attends. C'est-à-dire que là, c'est ce qui se passe. Tu sais très bien que c'est gros. C'est big, c'est gros podcast. C'est grosse reprise. Donc, à un moment donné.
C'est la fausse ouverture de 40 minutes. Il n'y a pas de problème. Je m'adapte. Il n'y a pas de souci. On y va.
Il est déjà 40. Ah oui, il a raison.
Ça va, ça passe vite.
Voilà, c'est pour ça que c'est le chef du foot. Dans son tipi.
Nico, il s'excuse même pas.
Jean-Louis. Les gars, ça part trop là.
Je rigole, c'est pas grave.
Ça part trop dans tous les sens.
Oui.
Parlons du match de demain. France-Irak. 23h, 1 française. 17h, ici, Philadelphie. Pas de révolution, mon cher Jean-Louis, mais quelques ajustements dans le 11 de l'équipe de France par Deschamps.
Oui, c'est les trois changements dont on parle depuis quelques jours, qu'on avait pu apercevoir sur l'entraînement d'il y a deux jours. Donc les trois changements, c'est Digne sur le côté gauche de la défense à la place d'Hernandez. C'est Manu Koné au milieu de terrain à la place de Tchouaméni, qui est resté en salle d'ailleurs aujourd'hui, il s'est pas entraîné. Et puis c'est Bradley Barcola sur le côté gauche de l'attaque. Donc pour le reste, on reprend les mêmes que face au Sénégal.
Voilà, la compo probable, les gars, ça vous va? Est-ce que ça pourrait même être une équipe type ça?
Dans l'absolu,
ça vous choquerait pas, hein?
Enfin, la question, on en a discuté un peu hier. Est-ce que c'est une punition ces changements? Est-ce que c'est justement des contre-performances qui ont amené à ces changements? Je pense à Théo Hernandez et à Désiré Doué, par exemple, pour l'entrée de Barcola et de Digne. Et c'est un peu pas forcément le cas, j'imagine, pour Tchouaméni, parce que c'est presque un imbougeable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Louis, par rapport à ça?
Non, moi, je pense pas que ce soit une sanction pour les titulaires. Je pense plus que c'est un message pour les remplaçants, parce que c'est des postes où on estime qu'ils sont pas loin du titulaire, en fait. Je pense que Manu Koné, il a fait une excellente saison en équipe de France à chaque fois qu'il a porté le maillot bleu. Je pense que dans l'esprit du staff, Barcola est pas si loin que Désiré Doué en fonction de la configuration du match. Et pareil sur le poste d'arrière gauche, Digne a rien à envier à Hernandez. Donc à mon avis, c'est plus un message pour les remplaçants qu'une sanction pour les titulaires.
Et tu penses que Barcola titulaire contre un Irak qui va sûrement défendre très bas, tu penses que c'est une bonne idée?
Bah non, ça j'en parlais déjà il y a deux jours. Je suis d'accord. Tactiquement, je vois pas bien le raisonnement, mais je le vois plus comme un espèce de cadeau qu'on fait parce qu'il a fait une bonne entrée. Donc voilà, on l'a vu, on te récompense avec une titularisation derrière. Parce que pour le reste, je suis d'accord. Contre le Sénégal, il profite des espaces, ça y en aura pas contre l'Irak.
Ils ont joué quand même, hein, contre la Norvège, l'Irak. Hein. C'était pas un bloc très bas, c'était pas non plus. Non, ils en ont pris 4 parce qu'ils ont joué aussi. Hein.
Ça va être l'équipe de France en face avec toute la verticalité qu'on connaît des équipes.
Parfois, on est dans le poncif en se disant, vu qu'il n'y a pas d'espace, Barcola peut pas être intéressant. Mais avoir que des joueurs pied ballon aussi dans une configuration avec un bloc bas, parfois ça joue trop petit. Et peut-être que Barcola, qui peut étirer la ligne et qui peut créer du mouvement, ça peut être aussi une possibilité. Moi, je suis pas fermé à ça. Surtout en plus face à une équipe d'Irak qui est bien inférieure à toi, où normalement Bradley Barcola en un contre un va pouvoir faire des différences. Ouais, je vois le truc comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir la gestion des vrais leaders. Donc Mbappé ne sort pas, Olise ne sort pas.
La gestion tendue, tu veux dire, c'est ça, sur ce match-là.
Par exemple, moi j'aurais mis Saliba au frigo.
Moi aussi, c'est exactement ce que j'allais dire.
Moi j'ai vu la conférence de presse de Saliba.
Qui a dit lui-même qu'il avait serré les dents contre le Sénégal.
Il dit qu'il serre les dents, et moi je l'aurais mis contre la Norvège et pas contre l'Irak, ou inversement. Mais en tout cas, il y a une vraie gestion à avoir pour moi pour Saliba, parce qu'on l'a vu sur le premier match, la charnière centrale est obligatoire. Elle est primordiale pour l'équipe de France, et c'est un vrai sujet. Si on a un Konaté qui est déjà à Madrid ou qui a montré contre la Côte d'Ivoire qu'il était en difficulté, ou même un Lacroix qui lui est passé devant contre l'Irlande du Nord, moi on doit choyer William Saliba.
Ouais, tu penses que Lacroix est numéro 3?
Ouais,
dans la tête de Deschamps.
Je pense qu'il est passé devant. Hein, Jean-Louis, on en a parlé.
Il est rentré plusieurs fois avant.
Ouais, voilà, c'est
donc
ça.
Dans la hiérarchie, ça semble être ça. Ouais.
Après 6 matchs de suite, en tant qu'ils sont au moins un but, peut-être que tu gardes Saliba et Upamecano pour cette fois au moins faire clean sheet et après tu repars contre la Norvège.
Contre l'Irak, tu arrives.
Mais quelle valeur aura un clean sheet contre l'Irak?
Peut-être. Dans le débrief, tu diras quoi?
Ouais, mais Deschamps, il aime ça. Deschamps, c'est quelque chose qui.
Moi, j'aurais privilégié quand même.
Ça serait bête de perdre ton défenseur sur un match.
C'est vrai aussi, Arton.
Bon. Il y avait une conférence de presse donc aujourd'hui, veille de match traditionnel. Le sujet d'Embélé était en haut la pile. Comment sauver le ballon d'or? Mbappé est venu en patron, capitaine, ambassadeur, protecteur. D'ailleurs, on va faire le débat. Est-ce que vous êtes convaincu désormais? Il est le capitaine idéal de l'équipe de France. Écoutez-le. Ça a duré un peu plus de 20 minutes. Là, la question portait sur les difficultés dans ce tout début de mondial de son ami Ousmane Dembélé.
La première mi-temps, c'est le meilleur offensif des quatre. C'est celui qui arrive à fluidifier le plus le jeu. Il était le plus en vue des quatre. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, Michael et moi, on a été décisifs, mais il a aussi contribué. Quand on revoit le premier but, la passe de Michael, elle existe parce que Ousmane il attire Niakate et il libère l'espace pour que moi je puisse m'engouffrer dedans. C'est des choses qui comptent pas sur la ligne de statistiques, mais c'est tout aussi important parce que sans ça, il y a pas d'appel, il y a pas de passe, il y a pas de but et on est toujours à 0-0. Ousmane est très tranquille. C'est le ballon d'or. Il sait qu'il a la confiance de tout le groupe, tout le staff. C'est un joueur très important pour nous. Ça fait des années qu'il est là. Il connaît parfaitement comment fonctionne l'équipe de France, le paysage médiatique autour de l'équipe de France aussi. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Et je suis sûr que dès demain, il va continuer à jouer sa marche en avant. Il va monter en puissance et ça va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr.
Voilà, c'est le Mbappé protecteur, un peu grand frère, tu vois, qui vient sauver un peu Dembélé sur les critiques qui lui ont été lancées. Pas nous prendre pour des. On n'a pas la même perception, Julien. Je te voyais être pas d'accord avec ce que disait.
Je suis pas d'accord sur l'implication avec Mbappé, le but. Parce que si tu regardes le but, il est en position, il est à 3 mètres, il est là où, par rapport à où moi je suis au lycée, Walid c'est Ousmane, il est là. Il faut qu'un appel. Au contraire, il dit au lycée, recycle le ballon.
Toi t'es au lycée. Il lui dit. T'es au lycée, moi je suis au collège.
Pas mal. Et il fait signe avec son bras à Olise de ressortir le ballon pour repartir de l'autre côté et recycler le ballon.
Ouais.
Et Olise fait la passe pour Mbappé à ce moment-là. Donc, mais à part ça, réponse parfaite pour moi. Réponse parfaite du capitaine.
Il pousse l'analyse.
Il défend son gars. Et il a raison en plus.
Il pousse l'analyse un peu loin, très très loin sur Ousmane Dembélé.
Il en fait un peu trop quand même, non?
Oui, mais il est dans son rôle. Mais par contre, il est dans son rôle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on lui demande à un capitaine. On peut pas encore une fois reprocher à Kylian Mbappé de ne pas être le leader qu'il faut, etc. et de critiquer cette déclaration. Maintenant, si on doit lui répondre mot pour mot, s'il était là à côté de nous en débat sans cette cape de capitana, on lui dirait ok, c'est le moins mauvais sur la première mi-temps. On l'a aussi vu, Kylian. Par contre, il souffre de la comparaison avec Olise en deuxième mi-temps, qui prend son rôle de numéro 10. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en première mi-temps, il donne un bon ballon de but à Mbappé, qui ne le concrétise pas, qu'il est là, qu'il est plutôt là. Enfin, Doué passe à côté, Olise est pris par Malik Diouf et Mbappé cataclysmique. Donc, bien évidemment que Dembélé est le moins mauvais. Il a raison. Par contre, la différence avec Dembélé, créateur numéro 1, et Olise en deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. Ouais. Et ça, pour le coup, Mbappé, il pourra pas contredire ça. Maintenant, moi, je trouve qu'il rassemble, qu'il fédère, qui dit, qu'il explique que Ousmane Dembélé va être très important dans cette compétition, que c'est une équipe où il y a un moment, ça sera peut-être Mbappé, ça sera peut-être Olise, et dans d'autres moments, ce sera Ousmane Dembélé. Et pour moi, ça, c'est,
et les gars,
ça,
c'est être un très bon capitaine. Je me pose une question, je donne la parole dans un instant, Max, tu peux répondre aussi, Jean-Louis aussi. Est-ce que finalement, ce ballon d'or n'est pas un peu lourd pour Dembélé dans un contexte équipe de France? Ce statut, parce que tu vois, Mbappé dit, attendez les gars, c'est un ballon d'or, il est tranquille, tout ça. Est-ce que ça peut l'impacter également, ce statut de numéro 1 du foot mondial, Max?
Quand j'en ai parlé hier, on m'a dit que c'était une récompense qui servait à rien, mais il y a une réalité, c'est que quand t'es ballon d'or en titre, tu restes ballon d'or en titre. Je me posais la question justement, et j'ai demandé autour de cette table si ça avait été déjà vu de mettre un ballon d'or sur le banc sur une grande compétition. C'est presque
toi,
le
toi t'es comme Roff en fait. Toi t'es d'accord avec Roff qui dit,
bien sûr, moi,
c'est une injustice.
Pour moi, on maltraite Dembélé. Je te dis, on maltraite Dembélé,
c'est
non
un
pas.
Gros fort,
si pour moi on maltraite Dembélé. Je te dis, quand t'as la chance d'avoir un ballon d'or en titre dans ton groupe, pour moi tu dois faire le maximum pour le mettre dans les meilleures dispositions. Alors je vais pas parler des médias parce que c'est notre rôle justement de des analyses sur le positionnement et sur les performances de Dembélé. Mais moi j'en veux à Didier Deschamps de mettre un Dembélé dans cette situation alors que tu sais très bien que tu peux mettre Mbappé à gauche.
On va pas tout refaire.
Pour moi, Dembélé devrait être mis en valeur à partir du moment que t'es le ballon d'or en titre.